C'est génial, le maître Birman disait, nous avons besoin de la bonne information pour la pratique. Alors évidemment, on peut toujours se demander qui a la bonne information, mais je crois que ce qu'on peut comprendre aussi, c'est qu'il faut l'avoir quand on en a besoin, avoir la bonne information, parce que par moment, dans la pratique, certains aspects surgissent, et là, on a besoin de s'y retrouver, de comprendre un peu le sens de ce qu'on fait, peut-être voir l'attitude qu'il est juste d'avoir. Donc dans l'information qui est donnée le soir, en général, c'est une information générale, contexte et aussi un peu plus précise, mais qui permet, dans la pratique, quelquefois, lorsqu'on a besoin d'éclairage, de l'avoir à disposition. Donc à ce moment-là, on a tout en soi-même pour pouvoir savoir comment s'orienter ou quelquefois sortir de difficultés dans lesquelles on s'enferme. Donc on donne ici le contexte aussi, parce que nous avons plein d'a priori quant à la méditation, quant au chemin bouddhiste, c'est normal. Ce n'est certainement que, ou peut-être bien qu'à la fin du chemin, qu'on sera sans a priori, qu'on comprendra de quoi il s'agit. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une certaine confusion. On voit d'ailleurs dans les sutras, il y a des explications qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc il est important pour nous d'avoir une sorte d'esprit critique lorsqu'on lit quelque chose, pour se demander dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en laissant évidemment la question ouverte. Et ces a priori, évidemment, ils viennent de notre vie, de notre vie quotidienne, du monde dans lequel nous vivons. Nous avons l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Et puis nous essayons d'utiliser ce fonctionnement pour essayer d'explorer une liberté inconditionnée, pour employer les termes de la tradition, découvrir une liberté inconditionnée. Mais si nous essayons d'explorer cette liberté inconditionnée au moyen de nos stratégies habituelles, évidemment nous nous enfermons. Nous nous enfermons dans nos habitudes et à ce moment-là, on a l'impression qu'il y a peu d'ouverture. Donc s'il y a une liberté inconditionnée possible, ça veut aussi dire ceci implique une vision du monde radicalement différente ou un positionnement dans le monde radicalement différent. On ne peut pas vouloir garder les mêmes attitudes, les mêmes certitudes et puis en même temps découvrir quelque chose de nouveau. C'est pas possible. On s'accroche au connu, puis on voudrait découvrir quelque chose de nouveau. À ce moment-là, on fait que bricoler des choses en les organisant différemment, mais c'est pas des choses nouvelles. J'ai pris une citation ici, à nouveau du Sutta Nipata. On semble qu'on est dans quelque chose d'un peu différent. Voilà ce que le Bouddha dit, donc un des enseignements les plus anciens. Il dit: les personnes éveillées ne sont les ennemis d'aucune doctrine, vue, entendue ou pensée. Ne se formant pas d'opinion, ne se fermant pas et n'étant pas dans une quête, elles sont sages, des sages qui ont déposé leur fardeau. Donc, il est l'ennemi d'aucune doctrine, ou cette personne est l'ennemi d'aucune doctrine, c'est-à-dire qu'elle ne s'attache pas à des doctrines. Elle ne va pas s'y opposer ni saisir des doctrines. Donc, il ne s'agit pas de développer par notre pratique, par nos études, nos réflexions, tout d'un coup une sorte de doctrine, de vision qui expliquerait le monde. Ça n'explique pas le monde. Parce que ces explications du monde, c'est justement ce qui est problématique. Donc nous ne sommes, selon la tradition bouddhique, nous ne sommes pas conditionnés par la réalité. Nous ne sommes pas réellement conditionnés. C'est quelque chose d'assez important et d'assez marquant d'entendre que nous ne sommes pas réellement conditionnés. On pourrait dire, d'une manière encore plus provocante, nous ne souffrons pas réellement. Bon, ils exagèrent quand même. Il s'agit évidemment d'explorer ceci. Nous sommes conditionnés, enfermés dans nos croyances. Ce sont les croyances qui nous enferme, nous conditionne et non pas la réalité. Maintenant, croyance, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, on peut parler de croyance d'une manière générale. Général, c'est les croyances générales, c'est la question de temporalité, la permanence des choses. La croyance qu'il y a une entité qui correspond à un moi-je. Donc, ce sont des croyances générales parce qu'elles font partie de la manière dont nous sommes situés dans le monde. Et puis, il y a aussi les croyances culturelles. Manière de s'habiller, par exemple. On voit bien dans différentes régions la manière qui est acceptée, supposée juste, judicieuse, de s'habiller, c'est différent. Il y a aussi, dans ces choses culturelles, les croyances religieuses. Et Dieu sait si ça joue un rôle important dans le conditionnement. Combien, selon les croyances religieuses différentes, ou même des fois très proches, les gens peuvent entrer en conflit, en conditionnement par les croyances religieuses, la notion du karma, comprise de manière restreinte. Donc tout ceci, c'est le conditionnement Donc tout ceci, c'est le conditionnement qui nous limite, qui fait que nous sommes dans une manière de vivre qui est douloureuse. Et puis il y a aussi évidemment les croyances personnelles. Croyances personnelles, le rapport à nous-mêmes, extraordinaire ou nul, ça dépend, souvent ça varie. Rapport aux autres, rapport à l'image du père, de la mère, aux autorités, enfin rapport à beaucoup de choses. Là, il y a place pour des confusions qui dépendent de la vie et qu'on a vécue, qui dépendent de mille éléments. Mais ces croyances personnelles, souvent, nous ne nous rendons pas compte qu'elles sont personnelles, et nous pensons qu'elles sont générales, que tout le monde voit de la même manière. Donc tout ceci, c'est des enfermements, c'est ce qui nous limite, c'est ce qui nous fait souffrir. Et c'est bien ce que nous devons explorer dans la méditation pour essayer de nous libérer de ces différents types de croyances. Pas seulement la croyance en la permanence de ce qui est impermanent, un peu, qu'on s'est mis de manière un peu trop formelle. Enfin, l'ignorance qui prend ce qui change constamment pour être permanent, mais il y a évidemment d'autres croyances qui sont tout autant enfermante. Donc j'ai parlé de croyances culturelles, et le bouddhisme évidemment est plein de croyances culturelles, qui est autant d'enfermement aussi. Et les croyances personnelles qui surgissent aussi dans la méditation, des inquiétudes, des angoisses, de la colère, de la tristesse, tout ceci qui sont dus à une situation personnelle, une situation de vie. Il s'agit aussi de se libérer des croyances qui sous-tendent toutes ces émotions, ces expériences. Et le cheminement, c'est le fait de se libérer de toutes ces croyances qui ne sont pas la réalité, mais des croyances qu'on prend pour la réalité. Quand on les prend pour la réalité, elles sont extrêmement solides. On se heurte à ceci. Donc se libérer de ces croyances, qu'est-ce que nous avons comme élément pour nous aider? Ici j'ai pris un penseur, un philosophe occidental, Spinoza, parce qu'il donne les différentes sources de connaissances qui sont exactement les mêmes que le bouddhisme donne. Donc je trouve ça assez intéressant. Spinoza, il parle de trois genres de connaissances. Il dit, ben le premier genre de connaissances, c'est que nous ne savons pas où y dire. en entendant, en lisant, c'est quelque chose qui vient d'une source un peu extérieure. Ça, c'est la première source de connaissance qui est évidemment immensément importante pour nous. On lit, vous m'écoutez ici. On accumule de l'information et on en a besoin. On a besoin parce que cette information, quelquefois, va à l'encontre de nos croyances. Et quand cette information, elle semble aller à l'encontre de nos croyances, ça nous oblige évidemment à creuser. Et ça, c'est la connaissance du deuxième genre. C'est la raison, la réflexion. Tu fais qu'on a reçu de l'information, tout d'un coup, qui peut-être nous semble étonnante ou qui ne va pas dans le sens de nos croyances. Et cette réflexion va nous obliger à approfondir ceci. Donc toute la réflexion au moyen de la pensée. Et puis la connaissance du troisième genre, il appelle sa connaissance intuitive, c'est une connaissance qui est dépourvue de représentation, qui ne passe pas par une réflexion, qui ne passe pas par les concepts. C'est exactement ce que dit la tradition bouddhique, et je pense indienne d'ailleurs d'une manière générale. Premier type de connaissance est basé sur l'audition, la lecture, l'accumulation d'informations. Deuxième genre, c'est sur la réflexion. Le troisième, c'est sur la méditation. Et les trois sont importantes. Je me souviens dans le premier stage que j'avais fait de méditation en Inde, la Bodh Gaya, où on nous disait non, ça ne sert à rien de lire les sutras, étudiez pas, méditez, et puis voilà, quand vous serez éveillé, vous lirez les sutras. Je le formule un peu de manière caricaturale, mais c'était quand même un peu ça ne vous sert à rien d'étudier, ce qui est assez absurde. Pourquoi le Bouddha, il aurait enseigné pendant 40 ans si c'était inutile? Donc ce qui est enseigné là, dans les sutras ou d'autres réflexions, on a toute une pensée aussi en Occident qui se développe, et qu'il est important de puiser dans ces sources-là, selon évidemment nos intérêts, selon notre sensibilité. Et le deuxième, c'est la réflexion. Bon, la réflexion, évidemment, comprendre de manière rationnelle, logique, c'est aussi une partie de l'investigation dont a parlé Patricia. Une investigation se fait aussi au moyen de la réflexion. Quand il y a des doutes, quand ce n'est pas clair, on pourrait se demander dans la pratique, par exemple, je me fatigue. Chaque assise est fatigante, épuisante, et je pourrais me demander, dans le fond, mais qu'est-ce qui se passe? Je me pose une question, pourquoi? Je suis assis, je ne bouge pas, pourquoi est-ce que je peux être fatigué? Non pas parce que j'ai mal dormi ou quelque chose qui serait simple, mais pourquoi est-ce que je me fatigue comme ceci? Et puis tout d'un coup, se rendre compte, quand on essaie d'être un peu, de considérer un peu la manière dont on pratique, on se rend compte qu'on fait trop d'efforts. Je veux que ça soit comme ça, je voudrais autre chose, je veux accomplir, je veux me concentrer. Donc cet effort-là excessif, c'est ce qui va créer cette fatigue. Donc la réflexion ici nous pousse à dire, ben, peut-être que je vais faire moins d'efforts, je vais être moins dans l'accomplissement d'une expérience. Donc la réflexion ici, j'ai pris un exemple tout simple, mais cette réflexion nous aide à orienter la pratique. Et il faut savoir quand l'utiliser à bon escient. Non pas parce qu'elle viendrait se substituer à l'expérience méditative, mais qu'elle vient quelquefois pour lui donner sens et aussi prendre conscience quand il y a dans l'attitude quelque chose qui n'est pas judicieux. Mais ces trois types de connaissances suppose des attitudes un peu différentes dans l'audition, la lecture, le fait d'accumuler de l'information, recevoir de l'information, ben ça demande justement de la lecture, de l'audition, et puis un peu de réflexion pour savoir où les sources me semblent intéressantes pour moi. À l'heure actuelle, il y a tellement de sources qu'on peut se perdre facilement. C'est aussi une sorte de difficulté de trouver, tiens, voilà, où est-ce que c'est intéressant comme source. Quand on prépare des exposés, eh bien, souvent on dit, tiens, dans ces sutras ou là, il y a peut-être quelque chose, puis on les lit, on recherche, puis on dit, non, c'est pas. Là, ça parle pas pour l'instant. Il faut trouver tout d'un coup le bon exemple, la bonne source qui dit, tiens, voilà, ça s'applique exactement, hein, plus ou moins exactement, hein, à ce que j'essaye d'expliquer, de montrer. Donc, choisir les sources, qui ne sont pas toujours les mêmes. Quand on se pose certaines questions, il y a des sources qui sont plus utiles que d'autres. Donc l'audition comme source, la réflexion ensuite, il y a des moments pour la réflexion, on pourrait très bien s'imaginer le soir, par moment réfléchir un petit peu. Dans la méditation, si on réfléchit trop, à ce moment-là, on ne va plus être dans l'expérience. Donc il peut y avoir quelques réflexions qui nous éclairent, dans la mesure du besoin. Mais il se peut très bien que le soir, on se dise, mais dans le fond, il y a des gens qui disent, qu'est-ce que je fais là? C'est une question tout à fait... normal, c'est bien de se la penser, de se la poser des fois. Bon, c'est un peu tard, mais c'est quand même bien de se la poser. Hein. Qu'est-ce que je fais là? Et se rendre compte que dans le fond, ce que je fais là, eh bien, j'essaye quand même de peut-être d'approfondir le sens de ma vie ou de me libérer de certaines confusions. Même si ce n'est pas évident quand je m'assieds, si j'ai des douleurs, beaucoup de pensées, de l'agitation. On me dit dans le fond, ben voilà, qu'est-ce que je fais là? Mais le contexte, il est bien pour essayer d'approfondir. Par moment, il y a de l'agitation, de la confusion, et par moment, pas. Le potentiel de la pratique est de pouvoir dépasser ceci. Donc, des moments pour la réflexion. Réflexion qui peut surgir aussi après des expériences méditatives. Tout d'un coup, ça nous montre quelque chose, ça nous montre comment on s'accroche habituellement. Donc la réflexion après l'expérience, elle permet aussi d'une certaine manière de l'intégrer. Parce qu'il faut reconnaître que dans la vie quotidienne, nous fonctionnons avec des idées, des pensées. On n'est pas simplement tout d'un coup sans la moindre pensée. Nous avons besoin de cette orientation des pensées pour fonctionner. Et l'expérience méditative peut amener à changer justement les croyances, ce qui fait que la manière de voir le monde va changer, elle va être moins contraignante. Si je réalise tout d'un coup dans ma méditation qu'il n'y a pas de stabilité, les choses changent, ou si je réalise peut-être que les choses ne sont pas aussi personnelles que je crois, à ce moment-là, évidemment, dans ma vie quotidienne, ça aura un impact. Donc cette réflexion va permettre d'intégrer un petit peu peut-être ce qui est vu avec plus d'acuité dans la pratique méditative. Donc, la pratique de la méditation, ce que nous explorons là, de volets ou deux aspects de cette pratique, on en a abondamment parlé. Il y a le côté de tranquilliser l'esprit qui est important pour qu'il soit disponible, mais aussi le côté de développer cette connaissance intuitive ou sagesse intuitive qui permet justement de se libérer de la confusion. La tranquillité est le contexte qui va permettre à l'intuition de pouvoir percevoir ou éprouver la réalité avec beaucoup d'acuité. Donc ces deux aspects, mais ils ont quand même une légère différence, même s'ils travaillent ensemble. Le premier, donc, est basé sur une attention souvent orientée, la respiration, toute zone d'ancrage, etc. Et elle se base sur quelque chose qui est stable en général. Donc cette chose stable, elle s'appuie sur une représentation. Donc elle permet, cette représentation stable permet de tranquilliser l'esprit. Et puis ensuite, eh bien, la présence attentive ou autre, vipassana, donc va à ce moment-là, va, on pourrait dire, se détendre dans cette expérience et permettre d'en réaliser la nature profonde. Donc ces deux aspects sont importants. Mais l'une, la première, selon différentes explications, et c'est celle qui me semble la plus claire, la première s'appuie sur un concept, une représentation, parce qu'elle est justement stable. On voit bien, même dans les supports, le développement de la tranquillité, on voit qu'il peut y avoir des images, images de Bouddha, des disques de couleurs, etc., dans des représentations stables. L'imagination de ce disque de couleurs qu'on va utiliser, pas le disque de couleurs lui-même, image de Bouddha, etc. Donc quelque chose qui est stable, qui est une représentation, parce que ça va permettre justement à l'esprit de pouvoir se poser sur quelque chose qui va permettre cette tranquillité de l'esprit. Quand l'esprit est tranquille, c'est pas toujours nécessaire de le poser sur cette base-là, à ce moment-là, peut-être un peu plus ouvert, et puis s'ouvrir aux expériences qui surgissent d'instant en instant. Mais même si on restait sur la zone d'ancrage, la respiration par exemple, là, il n'est pas nécessaire de changer de type d'expérience. Simplement à ce moment-là, il y a une sorte de plus grande disponibilité qui fait qu'on peut aussi comprendre la nature de l'expérience, ici, de l'expérience de la respiration. Et c'est pas l'objet qui va changer, c'est quelque chose dans l'attitude un petit peu plus ouverte dans la pratique de vipassana. Maintenant, il y a un point important que je trouve assez remarquable, parce que Spinoza dit exactement la même chose que la tradition bouddhique, c'est que le deuxième type de connaissance, la réflexion, etc., est basé sur un concept et est fait de généralités. C'est des généralités. On ne connaît que des généralités. Le troisième type, la sagesse intuitive, a affaire à des singularités. Ça peut paraître immensément abstrait, ça. Généralité, singularité, on s'en fiche un petit peu, hein, ces trucs-là. Mais dans l'expérience, c'est quelque chose d'immensément précis. Et c'est exactement ce qu'on explore. La généralité, c'est quand je suis dans une expérience et je m'attache à une représentation de l'expérience. Douleur, prends cet exemple-là, je médite, il y a douleur. Ben, douleur, c'est général. C'est quelque chose de général, voilà, c'est une généralisation. Et puis si je reste avec ça, je suis cette représentation, ce concept est un voile qui m'empêche de sentir la douleur dans ce qu'est là de sensation corporelle avec toute sa richesse. Donc douleur, c'est assez simple, mais ça peut être tristesse, ça peut être angoisse. Voilà, mon angoisse, de l'angoisse. Okay, de l'angoisse, ça c'est une généralité, tout le monde comprend. Angoisse, et pourtant, si on en fait l'expérience par moment, elle est toujours spécifique, particulière. Donc les généralités, c'est une manière de s'arrêter en cheminement de cette intimité avec soi-même. On s'arrête à la porte de cette intimité. Et pourquoi j'ai cité le sutra au début? Parce qu'il dit qu'il ne s'occupe pas de doctrine ou de le fait d'autres. Dans ce même sutra, il dit à un moment, on n'est pas libéré par la connaissance. Et souvent, on croit que connaître, ça suffit. Connaître quelque chose, connaître, ah voilà l'angoisse, voilà pourquoi j'ai peur, pourquoi je suis en colère, mais ça ne suffit pas. La généralité ne suffit pas. Il va falloir passer au troisième niveau de connaissance, sagesse intuitive, pour qu'il y ait vraiment là une transformation profonde. Sans toucher cet aspect-là, il n'y a pas de transformation profonde. Ça peut aider immensément, ces découvertes, tout d'un coup, de comprendre pourquoi ceci, cela. C'est pas que c'est inutile, mais on s'arrête en chemin. Donc ce troisième type de connaissance qui a affaire à des singularités. La singularité, c'est l'expérience dans son instantanéité. C'est l'expérience avant qu'on en fasse un objet de connaissance. Je vais essayer de dire ce que ça veut dire. Quand j'étais à Dharamsala, j'étudiais au monastère, j'étudiais la psychologie bouddhique, et puis on a étudié ce qu'est cette connaissance intuitive, ou sagesse intuitive, si vous voulez, sagesse juste. Puis, voilà, il y a une définition, je vous la donne en tibétain, c'est parce que pour revenir à l'étymologie de ce que ça veut dire, voilà ce que le texte qui dit, c'est Sartu Milwe Jigpa, et Sartu, ça veut dire nouveau. Nouveau. Milwe, c'est non erroné, et une conscience. Conscience qui est nouvelle et pas erronée. On ne dit pas erronée pour éviter les problèmes d'illusion d'optique, par exemple, un bout de bois qui est mis dans un seau et qu'on verrait brisé. Bon, ça ne fait pas partie d'une connaissance ou sagesse intuitive. Mais le terme, Sartu, veut dire nouveau. Nouveau. Donc on ne peut pas connaître une chose deux fois. Et là, l'enseignement n'a pas clarifié ceci. Pourquoi c'est important ? Pas dans un enseignement de méditation, on était ici dans la définition un peu des concepts. Pourquoi il y a ce nouveau ? Ce nouveau veut justement dire qu'on ne le réfère pas, on le réfère pas à du connu. L'expérience, quand elle surgit, avant d'être référée à du connu, juste ce qui se passe là. Avant qu'on dise, voilà, c'est ça, l'angoisse, etc. Ou si ce terme devait surgir, angoisse et autres, on le laisse tomber pour revenir à l'expérience avant qu'elle soit mise dans une représentation. Et en Dharamsala, je crois que le maître n'a pas expliqué ceci parce que ce n'est pas leur tradition de méditer comme ceci. Ce n'est pas la tradition du maître qui était remarquable et extrêmement généreux, bon pédagogue, mais il n'y avait pas cette approche-là. Et ça, on pourrait dire que ça, c'est spécifique à la tradition du Vipassana, en grande partie, et aussi à la tradition du Mahamudra et Dzogchen, cette nouveauté dans l'expérience. Si on est toujours avec du connu, c'est toujours du réchauffé, et dans le fond, c'est un peu comme si on n'arrêtait pas de se souvenir. On n'éprouve rien, on se souvient. Quand on éprouve la vie, on se souvient de la vie. Et quand on se souvient de la vie au lieu de la vivre, c'est assez superficiel. C'est assez ennuyeux. On vit dans le souvenir. Donc ce souvenir empêche l'intimité à l'expérience inédite qui surgit dans l'instant. Et ce que nous donnons comme indication pour la pratique, c'est exactement ça. Rester au plus proche de l'expérience. Tout la manière dont nous nous exprimons ne dit rien d'autre. Ici, j'essaie de donner un peu le contexte, pourquoi on parle de cette manière-là, dans cette fraîcheur. Mais si on l'inscrit dans la durée, mon inquiétude qui dure, ma douleur qui dure, peu importe, ma colère qui dure, ma somnolence qui dure, mon calme qui dure, à ce moment-là, on a passé dans la représentation. La représentation est quelque chose qui donne l'illusion de la durée. Et on sent bien dans la pratique quand il y a cette sensibilité qui fait qu'on est juste dans l'expérience, dans sa singularité, qu'il n'y a pas de notion de durée. C'est ni bref, ni éternel, c'est juste là. C'est juste là, ce surgissement de cette expérience inédite avant toute codification, avant toute élaboration. C'est la seule chose qu'on peut dire, c'est juste là. Encore, vous n'avez pas besoin de le dire, c'est juste là. Donc il ne s'agit pas de se battre ni contre les représentations, ni contre les concepts, ni vouloir atteindre cet état de fraîcheur, si vous voulez. Mais je crois que ce qui est important, c'est de se rendre compte que l'enjeu n'est pas de mettre des représentations. L'enjeu n'est pas de connaître. On va se demander, alors qu'est-ce que l'enjeu, finalement? Parce que tant, c'est ce que j'ai dit au début, nous sommes prisonniers de la manière de fonctionner dans la vie quotidienne qui est liée au connaître. On a besoin de connaître. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est pas, si on veut être les uns avec les autres, les unes avec les autres, il faut cette connaissance. Bon, bien. Là, il y a peu de personnes qui sont venues en bicyclette. En général, à Genève, le mardi, ça va, mais là, un peu plus difficile. Mais en voiture et autres, il faut pouvoir interpréter. C'est indispensable. Anticiper, autrement ça ne va pas. Donc nous avons besoin dans la vie quotidienne d'interpréter ce qui se passe pour fonctionner. Mais dans la mesure où nous croyons que c'est dans le fond la réalité, que le monde est vraiment comme ceci, à ce moment-là, nous sommes conditionnés par ceci. Vous voyez, ce n'est pas un combat contre, mais c'est... Nous valorisons en général tout ce qui est de l'ordre du connu. Parce que nous pensons que c'est le seul modèle. C'est pour ça que j'ai bien aimé citer Spinoza, parce qu'il montre aussi que ce n'est pas le seul modèle. Il y a un modèle plus intime. Donc sans se battre, nous essayons tranquillement, d'essayer d'être avec la zone d'ancrage, ou avec ce qui surgit tranquillement, et puis voilà, peut-être qu'on met des mots, voilà, la tristesse, ma colère, etc. Ok, mais donc, qu'est-ce que c'est? Quel goût ça a, cette expérience? On revient à l'expérience elle-même. J'ai dit au début que, dans le fond, le Bouddha ne se préoccupe pas de connaissance, c'est autre chose. Il ne s'intéresse pas à connaissance et doctrine. Donc on peut se demander s'il n'y a pas de connaissance dans cette expérience, dans sa singularité. Singularité veut dire qu'elle est unique. Elle est unique parce que c'est la seule en cet instant. Sa singularité, c'est la seule en cet instant. On n'a pas une expérience, deux expériences au même instant. Il y a une expérience dans toute sa richesse, mais cet instant, elle n'est pas de l'ordre de la connaissance. Pour citer un autre philosophe, Kierkegaard disait « L'expérience dans sa singularité est non-savoir. » L'expérience dans sa singularité est non-savoir. Est-ce qu'on peut s'engager là-dedans dans ce non-savoir? Et dans ce non-savoir, il y a quelque chose qui peut se dévoiler. Dans le savoir, non. Alors, à nouveau, on peut découvrir des choses importantes pour nous psychologiquement. Ah, mais voilà, je réagis comme ça. Ce n'est pas inutile. On comprend des choses dans la pratique, mais ce n'est pas le fond de la pratique. C'est oser aller dans ce non-savoir. Dans un sutra, un moine vient questionner le Bouddha. J'ai déjà parlé de ce sutra, mais il précise bien ce que nous explorons. Il dit quand on est perdu dans la rivière des tourments, de la confusion, de la souffrance, où est le refuge, où est l'île? Et le Bouddha dit non, dans l'absence de saisie, dans la non-saisie. Et la non-saisie, c'est justement de ne pas ramener l'expérience à du connu. C'est ça la non-saisie, c'est pas... pour quelque chose de bizarre, il faudrait faire quelque chose de bizarre. Au contraire, c'est de rester dans la plus grande simplicité, une plus grande réceptivité. Et c'est là l'île, c'est là le refuge, c'est là qu'on découvre la dimension de la liberté. Mais ce n'est pas qu'on doit découvrir des choses nouvelles, mais laisser tomber ce qu'on connaît. Dans cette exploration de l'intimité à l'expérience, pas d'une manière générale pour fonctionner, laisser tomber ce qu'on connaît pour découvrir ce qui se révèle dans la fraîcheur de l'expérience inédite. Donc ceci qui requiert une certaine détente, légèreté, non pas une attitude volontariste, légèreté, disponibilité, aussi une certaine curiosité. On pourrait dire que là, l'absence de curiosité serait de se contenter d'un constat, c'est-à-dire d'un concept. Ah, c'est ça. C'est l'absence de curiosité. La curiosité, elle ne s'attache pas à ceci, elle laisse les choses ouvertes pour que justement on reste dans cette fraîcheur de l'instant qui surgit, l'expérience qui surgit dans l'instant. C'est pas compliqué, pas du tout compliqué. On n'a pas besoin d'apprendre des équations compliquées, même de ne pas faire des positions de yoga compliquées, il n'y a pas grand-chose. On peut être assis ça sur une chaise, par terre, ça ne change rien. Mais nous rencontrons nos habitudes, nos craintes, qui fait qu'on veut se rassurer des fois en s'accrochant à du connu, on fonctionne de cette manière-là. Donc ce n'est pas parce qu'on doit comprendre quelque chose de plus compliqué, faire des choses compliquées, mais c'est parce qu'au contraire, on s'ouvre à une plus grande simplicité. Détente corporelle, détente aussi de l'esprit. Détente corporelle, on comprend, là, mais détente de l'esprit, c'est un peu moins facile à comprendre, parce que c'est pas un muscle, je vais détendre mon esprit, hein, comment je vais faire, là. Détendre l'esprit, c'est simplement être sans objectif, sans but. Quand il y a un but, un objectif, l'esprit est tendu, il est tendu vers. Lorsqu'il est sans objectif, sans attente, à ce moment-là, l'esprit est détendu. Maintenant, si on en fait un but d'avoir l'esprit détendu, c'est compliqué. Ça arrive, hein, c'est... Et là aussi, on pourrait dire qu'il y a un peu d'investigation, même de réflexion. Comme je l'ai dit avant, on est fatigué, il y a une frustration. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une frustration parce qu'il y a une attente de quelque chose. On croit qu'il y a quelque chose qui devrait venir. Parce qu'évidemment, je parlais d'attente, j'ai parlé même de tension. Dans la mesure où tout d'un coup je suis présent à cette manière de me tendre vers, là, je suis juste en phase avec ce qui se passe. Dans cette tension vert, je suis simplement là, sans vouloir l'éliminer. Et on ne va pas se faire un modèle calme, détendu. Non, il y a aussi, dans cette tension-là, si je suis totalement là, sans la saisir, sans vouloir en faire quelque chose, à ce moment-là, il y a cette fraîcheur. Donc, pas se faire un modèle de quelque chose de particulier. Tendre vers, on pourrait dire. Mais si je suis dans ce mouvement de tendre vers à chaque instant, je me rends compte que il y a cette fraîcheur. Si je suis dans l'anticipation, je tends vers ceci, là il y a des représentations et autres, c'est compliqué, mais si je suis dans ce mouvement de tendre vers à chaque instant, à ce moment-là, il y a cette détente et cette fraîcheur. Donc c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'on rencontre nos habitudes, on rencontre aussi des émotions. Donc j'ai mentionné que parfois on touche des zones émotionnelles qui sont difficiles, et là il faut gérer. Ça demande aussi de la réflexion, en disant là c'est trop dur. On est fatigué quelquefois parce qu'on a essayé, je ne sais pas si l'exemple est bon, mais l'exemple est bon, mais essayons de imaginer que, je ne sais pas, on veut dompter un cheval, alors on est sur... Et à un moment donné, on est fatigué, on descend, parce que là, c'était pas évident. Je suis resté sur le cheval pendant un bon moment, mais là, je vais respirer un petit peu. Donc par moment, en essayant de rester avec l'expérience, ça demande une sorte d'attention, et à un moment donné, je suis un peu fatigué, à ce moment-là, je peux me détendre, prendre une expérience plus simple, perception des mains sur les genoux et autres. Donc il y a aussi des moments où, tout d'un coup, on reconnaît que là, j'ai plus la disponibilité pour être... vraiment avec une expérience qui est une expérience un peu plus difficile. Donc la réflexion me dira, ben là, je me repose, je prends quelque chose de plus simple. Donc sans tomber dans un modèle. Il n'y a aucune expérience à laquelle on ne puisse pas être présent, à part le coma, le sommeil profond. Bon, ça, c'est des excuses recevables, mais autrement, on peut être présent dans n'importe quelle expérience. Ça ne veut pas dire que c'est facile dans n'importe quelle expérience. Mais il n'y a pas de structure d'une expérience qui soit hors du champ de la conscience, puisque expérience, ça veut dire être conscient de quelque chose, de vivre quelque chose. Donc si on vit quelque chose, ben, on peut être conscient de vivre quelque chose. À nouveau, avec cette réserve, s'il y a des par moments, c'est bien de prendre un peu de distance. Donc comme je dis, dans les sutras, il y a beaucoup de sensibilités différentes. J'ai l'impression que ces sutras ont été recueillis, récités par les moines, c'est souvent des moines, de temps en temps aussi quelques nonnes, recueillis dans des régions différentes, dans des monastères différents. Et on a l'impression qu'il y avait des sensibilités différentes. Donc les sutras s'expriment de manière différente. Je me souviens avoir demandé à un grand maître birman qu'est-ce qu'il pensait d'un sutra qui me plaisait bien, puis il a dit non, il n'est pas authentique. C'était vite réglé. Il n'est pas authentique. Donc on ne veut pas tomber là-dedans, mais c'est vrai que choisir aussi par moment ceux qui nous parlent. Ben, le premier que j'ai choisi, vous avez vu, il est quand même assez radical dans le fond. Là, je prends un autre sutra aussi, bon, j'ai quand même pris assez souvent, mais c'est le Baya Sutra. On raconte un peu le contexte pour nous faire un peu voyager, mais voilà, c'est un ascète qui méditait, on dit qu'il était au bord de la mer, et puis il pensait qu'il était vraiment bien avancé sur le chemin spirituel, que voilà, il était bientôt au bout du chemin, il était très content de lui. Et puis on dit qu'un déva, donc voilà, un ange si vous voulez, ou un esprit, qui était relié à lui dans un autre moment, et il dit, mon pauvre, il est vraiment à côté du sujet. Alors il intervient et lui dit, écoute, tu y es pas. Écoute, va plutôt demander au Bouddha, lui il va t'expliquer. Ce Bhaya, on dit voilà, qu'il voyage en 1-2 jours jusqu'à l'endroit où le Bouddha. Donc on pense qu'il était déjà, il avait des pouvoirs miraculeux parce qu'il est du bord de la mer jusque dans la région de Patna et autres. Donc voilà, peu importe, on aime ces contextes, on aime bien dire que c'est pas n'importe qui, Bhaya, c'est pas, il n'est pas vraiment juste confus, c'est comme quelqu'un qui a une pratique assez intense. Quand il arrive, il demande au voilà, Bouddha est en train de sortir pour aller mendier sa nourriture, en sortant de, j'imagine, du parc où il se trouvait, et Bhaya l'approche pour lui demander, il a envie de savoir, il a quand même fait un long voyage, et puis le Bouddha lui dit, ben attends, quand je reviens, mais Bhaya insiste, alors, donc le Bouddha doit répondre rapidement, donc ce contexte est intéressant, parce que ça veut dire que le Bouddha n'a pas le temps de lui faire un long sermon, il doit être très bref, puisqu'il est en train de partir avec quelques moines pour mendier, donc il lui dit de manière très très brève, il lui dit, lorsque dans la vision il n'y a que la vision, dans l'audition que l'audition, par les cinq sens, dans le penser, si vous voulez, que le penser, pourrait dire dans le mouvement, que le mouvement, dans la marche, que la marche, dans la somnolence, que la somnolence, il dit, alors tu ne seras plus ni ici, ni là, ni entre les deux, il n'y aura plus de moi, parce que dans cette unité, il n'y a pas l'espace de moi, et ce sera la fin de la souffrance, tu vas atteindre l'éveil. C'est très, très bref ce qui est dit, mais ça doit. Ça donne une explication pour la pratique très, très précise. Dans la vision que la vision, dans l'audition que l'audition, dans le fond, dans l'expérience, il n'y a que l'expérience, il n'y a pas cette évaluation de l'expérience. On n'en fait pas une interprétation, elle reste simplement là. Donc si on peut dire que c'est pas, il ne s'agit pas de connaître, on ne va pas développer une connaissance, alors on dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il s'agit d'être à chaque instant. L'être n'est pas quelque chose qui a besoin d'un concept, c'est juste être. Et on sent parfois dans la pratique, c'est la simplicité de juste être. Maintenant, attention, quand on dit juste être ou simplement être, on peut très bien immédiatement le saisir, en faire quelque chose. Dire, voilà, c'est, voilà, ça existe, c'est éternel, etc. Là, on raconte beaucoup d'histoires, on est déjà en train de quitter la simplicité de cette expérience, d'être simplement, avant toute élaboration, avant tout jugement, même jugement sur ce que c'est que d'être. Voilà, je crois que c'est ça que décrit un peu ce Bhaya Sutra. Dans l'audition que l'audition, ben voilà, c'est une formulation particulière, mais quand on est juste dans l'expérience, voilà, manière un peu bizarre, mais on est juste l'expérience. On est juste l'expérience. Il n'y a que l'expérience. Il n'y a pas un méditeur, une méditante qui a une expérience, il y a juste l'expérience. Dans la simplicité de ceci, alors à ce moment-là, on peut comprendre ce que liberté inconditionnée veut dire, on peut comprendre comment on se dégage de toute croyance. Dans la simplicité de ceci, il n'y a pas j'entends l'oiseau, j'entends la scie, etc. Il y a juste cette simplicité d'être dans cette expérience-là. Voilà, donc quelques remarques pour donner un peu de perspective à notre pratique.